L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème, la parabole du Samaritain. Et nous recevons Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Merci pour ta disponibilité, ce temps de sacrifice, ce temps d'édification. Que Dieu te bénisse et te rende cela au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton appel, Seigneur. Fais-nous grâce encore aujourd'hui, Seigneur, de comprendre, d'accepter et de vivre ces richesses qui se trouvent dans cette parabole. Utilise ton serviteur, oins-le puissamment, Seigneur. Déverse en lui toute ta connaissance sur cette parabole afin d'édifier ton peuple. Et nous ne manquerons pas de te rendre gloire. Je sais qu'on est encore dans le thème, enfin dans le sous-thème, Jérusalem et Jéricho.
C'est très important de parler de cette parabole que le Seigneur nous a léguée, parce qu'il veut que nous puissions rester à Jérusalem. Oui, parce que déjà là, présentement, tous ceux qui laissent Jérusalem pour aller à Jéricho, ils sont tous dans le lieu de tourment. Ils souffrent grandement. Et Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir dans les lieux de tourment, mais Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui. Ça, c'est très important. Je voudrais bien que nous ayons ça à l'esprit. Lisons ce texte de Luc chapitre 23, au verset 26, avant de continuer. Nous avons vraiment longuement parlé de ces grandes conséquences de ces personnes qui ont laissé Jérusalem et qui se retrouveront à cause de leur obstinance à s'attacher au mal.
Tu as dit Luc 23.
On est au verset 26. Je disais que ces hommes se retrouveront à cause de leur têtutesse à s'attacher au mal, et bien ils se retrouveront dans la grande tribulation à cause du fait qu'ils vont rater l'enlèvement. La Bible dit ceci, ça c'est Jésus qui dit. On est au verset 26. Je prends le verset 27. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, c'est Jésus, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuse la stérile, heureuse les entrailles qui n'ont point enfanté. » et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous !» et aux collines, « Couvre-nous !» Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Très important ce texte, garni de beaucoup de leçons. C'est-à-dire le Seigneur, s'adressant aux femmes de Jérusalem qui pleuraient, leur dit de ne pas pleurer pour lui. Les femmes, nous aussi nous sommes des femmes, car l'Église de Christ est l'épouse de Christ. Et de même que le Seigneur avait dit ces choses aux femmes physiques de Jérusalem antique, eh bien, les mêmes phrases nous sont rapportées à nous, femmes de Jérusalem. Ne pleurons pas pour Jésus, parce qu'en fait, Jésus est mort, il est revenu à la vie, il a atteint son objectif. Oui, mais pleurons pour nous. Parce que nous sommes des hommes poussières, parce que nous avons dans ce corps des pulsions charnelles, des convoitises charnelles, que tu sois prophète, apôtre, et diacre, et docteur, en nous, nous avons la semence, cette tendance à faire le mal. Nous avons hérité d'Adam d'un corps qui nous conduit toujours à désobéir à la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit au temps de Noé, qui n'allait plus détruire le monde parce qu'il a vu que le cœur de l'homme est penché vers le mal. J'étais surpris hier, je passais quelque part, à Kinshasa bien sûr, alors j'ai vu une pancarte. Il y avait un homme de Dieu et il invitait des gens au séminaire. Et après, un peu en bas, on dit, il fait un commentaire sur sa personne disant, « qu'il est l'homme du moment.
Oui.
Alors je passais, je me suis dit, ah bon?
L'homme du moment.
L'homme du moment. Alors je me suis posé des questions. Bon, si lui, il est l'homme du moment, c'est que lui, sûrement, il n'a pas de convoitise charnelle. Sûrement, il n'a jamais trébuché. Hein, il n'a pas de faiblesse parce qu'il est l'homme du moment. Donc, il est l'homme exceptionnel. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, mais comment un homme peut prendre un risque pareil de se présenter aux yeux des autres comme l'homme du moment?
Il y en a même un autre. Il y en a même un autre en Asie qui dit que Dieu lui a changé son sang. Il n'a plus le sang comme nous tous. Il a un sang maintenant différent. Donc, il est devenu exceptionnel. C'est plus un être humain ordinaire. Mais pourtant, Jésus est venu sauver des êtres humains ordinaires.
Oui. Dieu fait des miracles extraordinaires avec des hommes ordinaires que nous sommes. Des hommes qui, des fois, ils reconnaissent leur faiblesse et disent, Seigneur, pardon. Je me suis fâché, j'ai posé tel acte, pardonne-moi. Alors celui qui dit qu'il est l'homme du moment, on sait que lui, il ne s'est jamais fâché. En tout cas, moi, en tout cas, je dois accepter ce que Jésus dit. Pleurez pour vous-même, parce que je sais que j'ai un corps qui me pousse toujours à faire le mal. Et nuit et jour, je porte ma croix, comme la Bible dit. Celui qui me suit, qu'il porte, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce corps ici, c'est une croix, parce qu'on doit obéir à Dieu. Il n'est pas rendre légal tous les désirs de ce corps. Jésus se tournant vers elle dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur vous, plus sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. C'est ce qu'on vous dit, bien-aimés, vous qui êtes à Jérusalem, vous qui avez décidé de ne pas descendre à Jéricho, pleurez toujours pour vous, sentez votre misère et dites à Dieu, Seigneur, soutiens-moi, je suis misérable. Dans cette phrase-là de « Sentez votre misère », c'est Jacques qui l'a dit, insistant dans le même sens que Jésus-Christ, il a dit « Sentez votre misère ». Chapitre 4, voilà, au verset 9. « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » C'est-à-dire, un vrai chrétien doit sentir qu'il est misérable. Il n'est rien, je suis misérable. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, assiste-moi. Sinon, je vais tomber. Si tu ne m'aides pas, ce n'est pas possible. Aide-moi.
Tout à fait. Si Dieu, tu n'es pas avec moi, je suis perdu.
Oui, sentez votre misère.
Je ne peux rien faire par moi-même. Tout à fait.
Un vrai chrétien doit être comme Paul, qui a crié dans Romains chapitre 7, au verset 24. Misérable que je suis. Vous voyez le mot misérable? Qui me délivrera du corps de cette mort? Pourquoi il a dit ainsi? Parce que lorsque nous remontons un peu au-dessus, mon frère, il explique pourquoi plus tard il va dire misérable. Au verset 15, il dit ceci. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je fais. Je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous savez que Paul, c'était un grand prédicateur. Et pour ceux qui ont lu la Bible, vous verrez que Dieu a fait par lui des miracles extraordinaires.
Il a écrit le deux tiers des livres du Nouveau Testament.
Oui, extraordinaire. Et vous le lirez dans Actes chapitre 19, le verset 11 au verset 12. Dieu a fait de lui des choses extraordinaires au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Dieu a fait des grandes choses par lui. Mais il dit au verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. » Par exemple, quand on se fâche. Mais c'est quelque part quelque chose qui nous conduit au mal. Ça lui est arrivé aussi de se fâcher et de dire, oh, « Je m'excuse, je ne devais pas faire ça. » Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Vous entendez, bien-aimé? Le péché habite en nous. En fait, quand Dieu nous regarde saints, c'est à cause de Jésus. Mais s'il faut se contenter de notre nature charnelle a tendance toujours à la désobéissance. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est ce corps. Ce corps, c'est notre premier ennemi. Notre premier ennemi, ce n'est pas d'abord Satan, C'est notre propre corps. Notre propre corps veut que nous puissions quitter Jérusalem et descendre à Jéricho. Parce que notre corps nous fait voir les bonnes choses de ce monde. Il nous fait voir que non, prends ça, ce sera bien. Fais ça, ce sera bien. Le diable vient peut-être, je dirais, vient amplifier. Mais notre corps a ses propres convoitises. Mais je vois dans mes membres, c'est-à-dire dans mon corps, on est au verset 3, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Il s'est rendu à l'évidence que malgré tout ce que Dieu faisait par lui, malgré les miracles extraordinaires que Dieu faisait par lui, il s'est rendu compte qu'il était misérable. Vraiment, comme a dit Jésus, pleurez sur vous et sur vos enfants. Pour ne pas rater l'enlèvement. C'est ça la réalité. Parce que ceux qui rateront l'enlèvement au temps de la grande tribulation, il y aura ce que Jésus-Christ a dit au verset 29 de Luc chapitre 23. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Pourquoi ces gens, aujourd'hui c'est vrai, ne pas avoir des enfants, c'est un problème pour beaucoup de femmes. Mais en ce temps-là, on dira à certaines femmes, « Ah, heureusement, tu n'as pas eu des enfants. Parce que nous, nous avons des enfants, on a du mal à fuir avec nos bébés. Tu fouilles à gauche, il y a un autre événement à droite. En tout cas, vous qui n'avez pas enfanté, vous êtes heureuses. Pendant la grande tribulation, la détresse sera si grande. Comme a dit Daniel, chapitre 12, verset 1. Si grande que ce sera terrible, comme l'a dit Jésus dans Matthieu 24, 21, 22. Il y a eu des souffrances, mais en ce temps-là, ce sera très dur. Hein, des souffrances telles qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe et qu'il n'y en aura jamais. Ce sera difficile. Heureux le stérile. En ce temps-là, on le dira ainsi. Heureuses les entrailles qui n'ont point allaité, enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. C'est-à-dire, en ce temps-là, comme on l'a dit la fois passée, Jésus, sauve-moi. Jésus, les rochers des âges, viens me sauver. Oui, parce que c'est lui, les rochers. Sauve-nous, tombe sur nous, rocher.
Mais ce sera trop tard. Le temps du salut sera déjà passé.
Oui. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus-Christ, pour une parenthèse, mon frère, c'était lui le bois vert. C'est-à-dire, il est cet arbre qui a en lui la sève. Il a été tué avec sa sève, c'est-à-dire avec la parole, parce que la parole c'est de l'eau. Mais le bois sec, il s'adressait aux femmes de Jérusalem, à toutes ces personnes qui étaient à Jérusalem, qui n'ont pas cru en Jésus. Quand tu ne crois pas en Jésus, tu es un bois sec. Mais toi qui nous suis, nous qui croyons au Seigneur, si nous nous attachons à Dieu, en fait, quand Dieu nous regarde, nous ne sommes pas des bois secs. Nous avons en nous l'eau, nous avons en nous la parole. Mais les gens, les juifs de l'époque, ils avaient renié la parole. C'est pour ça que Jésus leur dit, si on fait ces choses à moi, le bois vert, et vous qui m'avez renié, vous le bois sec.
Vous le bois sec, qu'est-ce qu'on fera de vous?
Oui, ce sera difficile pendant la grande tribulation. Pour les juifs, ce sera vraiment pire. Ils seront vraiment persécutés. Voilà pourquoi il n'y aura que 144 000 qui seront sauvés après des grandes souffrances. Mes frères, restons à Jérusalem. Ne descendons pas à Jéricho, je vous en prie. Restons à Jérusalem pour vivre des bonnes choses. Malheureusement, beaucoup de gens choisissent de laisser Jérusalem et de descendre à Jéricho. Jéricho n'est pas une très bonne ville. Et lorsqu'on lit Jéricho, on voit toujours des choses bizarres. Hein, c'est là qu'on retrouve, on a retrouvé l'aveugle Bartimée. C'est là qu'on a retrouvé le riche Zachée. C'est là qu'on a retrouvé Rahab la prostituée. C'est là qu'on a retrouvé la veuve de Naïm qui a perdu son enfant. Donc, c'est Jéricho, lorsqu'on a parlé de Jéricho, on a vu toujours des mauvaises choses. Mais au moins Bartimée s'est ressaisi, il a dit à son Seigneur de l'aider. Et quand Jésus l'a ouvert les yeux, il a suivi Jésus sur le chemin.
Tout à fait.
Ça, c'est très important. Est-ce que nous pouvons faire la même chose? Lisons quand même ce texte. C'est dans Marc chapitre 10, où Jésus-Christ, entrant à Jéricho, a rencontré un aveugle du nom de Bartimée. On est dans Marc chapitre 10, au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, et Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ! Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Parce que lui, il fait des choses nouvelles. « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » La foi, c'est la parole. La foi sauve de l'aveuglement. Ta foi, ça t'a sauvé. Lorsque nous nous attachons à la parole, nous voyons clair. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. En d'autres termes, Jésus quitta Jéricho. Lui aussi quitta Jéricho, suivant Jésus.
Tout
à fait. Quittons Jéricho. Parce que lorsqu'on reste dans Jéricho, c'est les lieux des aveugles. Lieu de l'aveuglement.
Et lieu de l'égocentrisme. Regarde un peu. Regarde un peu. Le monsieur, monsieur Bartimée, a besoin d'aide du sauveur. Mais on l'empêche de l'emmener vers le sauveur. Jéricho, on va jamais vous encourager à aller vers Jésus-Christ. Jéricho ne va jamais vous encourager à venir vers Jérusalem, à retourner à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. Jésus dira dans Jean 3, que je retrouve ça très rapidement, Jean 3, lorsqu'il est parlé du témoignage de la lumière et des œuvres des ténèbres, dans Jean 3, attends que je retrouve ça très facilement.
C'est vraiment une réalité.
C'est vraiment une réalité.
Une réalité que lorsqu'on est à Jéricho.
Non, c'est pas Jean 3, c'est Jean 1, quand il est parlé du... Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres n'ont point reçu la lumière. En d'autres termes, dans les ténèbres, dans Jéricho, on va jamais t'encourager à aller vers la lumière. Le monsieur crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la réaction des hommes est de tais-toi. Silence. Toi, tu peux pas être sauvé. Tu as trop de péchés. Du reste, tu es un aveugle, tu es un mendiant, tu es un vaurien. Reste dans ton coin. Voilà une des caractéristiques de Jéricho. Et heureusement pour lui, et heureusement pour nous, et heureusement pour les pécheurs, et que quand nous crions vers Dieu, quand nous venons, quand nous avons besoin du secours de Jésus-Christ, Jésus-Christ vient. Tu imagines si Jésus-Christ n'avait pas entendu. Cet homme serait resté dans son péché, cet homme serait resté dans Jéricho, cet homme serait mort dans Jéricho, dans son péché.
Et c'est vrai, ce Bartimée, cet aveugle que Dieu a sauvé. Et je bénis Dieu quand je regarde ce texte, quand je le lis, parce que Jéricho est situé dans le niveau le plus bas du monde entier sur son plan géographique. Mais le Seigneur est descendu jusqu'au niveau le plus bas. C'est-à-dire, Dieu, il voit toutes ces personnes qui sont emprunt au péché, qui sont ligotées par le mal, au plus profond de leur conscience. Ils sont conscients qu'ils font des efforts pour abandonner le mal.
Mais ils n'arrivent pas.
Alors ils se disent, est-ce qu'un jour je parviendrai à abandonner ça? Ça, c'est un sentiment normal qui arrive à tous ceux qui veulent sortir du mal. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais païen. même quand j'ai rétrogradé, parce qu'en tant que chrétien, il m'est arrivé, moi, de laisser Jérusalem et de descendre à Jéricho. Moi, je connais ça. J'ai souffré.
Ça nous est tous arrivé.
Alors, quand on se retrouve dans cette situation-là, on se dit, est-ce que je vais y parvenir? Alors, on se pose des questions. Est-ce que Dieu vraiment me regarde encore, vraiment, moi? Est-ce qu'il me regarde vraiment? Est-ce qu'il écoute encore mes prières? Là, c'est ça les culpabilités du diable. Il vient lancer dans tes pensées. Dieu ne t'écoute pas. Dieu, il efface tous les passages bibliques qui nous disent, par exemple, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Non, bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il veut que nous fassions comme Jéricho. Lorsqu'il a appris que, comme Bartimée, je voulais dire, lorsqu'il a appris que Jésus-Christ était arrivé à Jéricho, eh ben, il a laissé son manteau. Il a fait l'essentiel. Il a vu qu'en tout cas, c'est le moment idéal.
Et puis, observe. Le monsieur crie vers Jésus. On lui dit, tais-toi. Quand Jésus dit, faites-le venir, on ne va pas aider cette personne à aller vers Jésus. On va simplement lui dire, lève-toi, Jésus a besoin de toi. Le monsieur va jeter son manteau, se lever et aller seul. En fait, il avait la possibilité d'aller vers Jésus. Mais il ne savait pas si Jésus allait l'accepter. Écoute ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 1, verset 15. 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Amen.
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu à Jéricho pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ permet que vous écoutiez cette émission aujourd'hui pour vous sauver du péché.
Amen.
Peu importe la quantité de péché que vous avez emmagasiné dans votre vie, vous êtes rétrograde, vous avez craché au visage de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu aujourd'hui dans votre vie pour vous sauver. Et souvent, on voit cette image sur Internet ou dans des spots publicitaires sur Jésus. Jésus-Christ se tient derrière une porte en train de frapper. Et il dit, ouvrez-moi afin que j'aie communion avec vous. Mon frère, ma sœur, qui que vous soyez, une prostituée, un occultiste, un homosexuel, un voleur, un impudique ou je ne sais pas quoi, vous êtes le plus grand des pécheurs. Dans votre famille, on vous a dit, c'est vous le plus grand pécheur du monde. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs dont vous êtes le premier, si je puis dire. Il ne va pas vous rejeter. Si Bartimée savait qu'entre lui et Jésus-Christ, il n'y avait pas d'obstacle, Bartimée n'aurait même pas eu besoin de demander, de crier vers « Jésus, sauve-moi, Jésus, viens, aie pitié de moi ». Non, s'il le savait, il se serait automatiquement levé et il serait allé en direction de Jésus-Christ.
C'est très important, bien-aimé. Il y a beaucoup d'aveugles parmi les chrétiens, beaucoup d'aveugles parmi les serviteurs de Dieu. Si je vous dis, c'est vrai, beaucoup d'aveugles. Parce que ce n'est pas la première fois, ça a commencé depuis longtemps. Matthieu chapitre 15, on est au verset 12. Je vais lire. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » En fait, la plante, c'est l'image d'un homme. Hein. Toute personne qui décide de quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho, Dieu va le déraciner pour l'envoyer dans le lieu de tourment, pour qu'il reste dans la grande tribulation si Jésus-Christ revenait, par exemple. Regardez le verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous voyez, les pharisiens, ils avaient la loi, mais ils étaient des aveugles. Ils marchaient dans l'aveuglement, comme beaucoup aujourd'hui. Je lis encore un autre texte. On est dans le livre de Ésaïe 42, au verset 18. La Bible dit ceci. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami des dieux? L'ami de Dieu est aveugle. La fois passée, on a vu aussi l'ami de Dieu qui manquait les vêtements des noces. Dans Matthieu chapitre 22, où Jésus-Christ a dit à cet homme, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces ?» Ici aussi, il dit, « Qui est aveugle comme l'ami de Dieu ?» Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. C'est triste. C'est vraiment triste. Restons à Jérusalem. Alors, nous ne vivrons pas des désastres, des situations difficiles. C'est très important, bien-aimé.
Mon frère, ma soeur, vous qui nous écoutez en ce moment, au moment où nous sommes en train de finir cette émission d'aujourd'hui, Dieu est en train de vous dire que entre Dieu et vous, le pont s'appelle Jésus-Christ. Entre vous et Jésus-Christ, il n'y a pas d'intermédiaire. Cet homme Bartimée, dès qu'il a compris que Jésus voulait de lui dans sa vie, il s'est levé et il est allé vers Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas regardé comment tu es devenu aveugle, comment toi, fils de Timée, un homme riche, un homme prospère, tu t'es retrouvé dans une ville de péché. Non, tout ce que Jésus-Christ a fait était de sauver cette personne. Et Jésus-Christ se tient aujourd'hui devant vous pour vous dire, je veux changer votre vie, je veux laver vos péchés, je veux vous libérer de Jéricho, je veux vous libérer du monde, je veux vous libérer de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, bref, du péché, je veux vous libérer de Satan. Pour ça, vous devez venir à Jérusalem. Pour ça, vous devez venir à Jésus-Christ, car il est le seul qui puisse vous libérer du péché. Si c'est cela votre désir, si c'est cela votre prière, c'est très simple, baissez dans la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi, parce que j'ai entendu ton message, j'ai entendu ton appel, et tu m'as dit que entre toi et moi, il n'y a qu'un seul pont, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne rejette personne. Jésus-Christ ne refuse personne. Au contraire, il est venu dans ce monde pour sauver tous les pécheurs. Et je suis un pécheur. Je suis un rebelle. Et je viens à Jésus-Christ pour être sauvé, lavé, purifié de mes péchés. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ce message d'aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je me considère maintenant comme une nouvelle créature. Je prends un nouveau départ avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine avec Jonathan Junior Mambou, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.